Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Nous débuterons cette édition par une controverse autour de la mort de mercenaires russes en Syrie. Plusieurs médias et agences de presse évoquent des centaines de morts et blessés côté russe, des frappes menées par Washington. Nous essaierons donc de démêler le vrai du faux.
Et nous nous intéresserons ensuite à la Pologne, où les conservateurs nationalistes sont de plus en plus nombreux et véhéments. Nous tenterons de savoir pourquoi, alors que Bruxelles a lancé une procédure inédite pour risque d'atteinte à l'état de droit.
Dans ce journal encore, un point sur les négociations sur l'assurance chômage. Hier soir, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Sur la question des contrats courts, c'est une première. Les syndicats en appellent au gouvernement pour trancher.
Et puis, quel avenir pour Renault ? Les comptes du groupe automobile sont publiés ce matin. Ils sont très bons. L'État actionnaire prépare déjà l'après Carlos Ghosn. Vous l'entendrez.
Dans un gros quart d'heure, Ludovic Piétenu nous rejoindra pour son billet politique autour du pouvoir de la chasse. Que s'est-il passé il y a 10 jours dans la région de Deir ez-Zor en Syrie ? Moscou évoque 5 morts, 5 combattants russes tués dans des frappes américaines. L'agence de presse internationale Reuters annonce de son côté 100 de morts et autant, voire plus, de blessés. Les Russes ont-ils été visés ? Que faisaient ces mercenaires aux côtés des forces du régime syrien ? Pour y répondre, le chef du service international de France Culture est à mes côtés ce matin. Bonjour Éric Biegala.
Bonjour.
D'abord Éric, qui a frappé qui ?
Alors ce qu'il y a de certain pour le moment, c'est que les forces aériennes américaines, chasseurs-bombardiers, hélicoptères d'attaque et drones de combat sont intervenus dans la nuit du 7 au 8 février pour contrer une attaque de forces pro-régime visant des positions tenues par les Kurdes des forces démocratiques syriennes sur la rive orientale de l'Euphrate, près de Deir ez-Zor. Ce qu'il y a de certain aussi, c'est que l'intervention aérienne a fait de très sérieux dégâts dans les rangs des troupes pro-régime. 100 morts annonçait l'état-major de la coalition occidentale au lendemain de l'événement. Ce qu'il y a de beaucoup plus flou, c'est l'identité et la nationalité de ces troupes pro-régime. Sur cette zone, on compte dans les rangs du régime quelques unités constituées de Syriens, certes, mais aussi nombre de brigades chiites étrangères formées, entraînées et armées par l'Iran. Et puis il y a des Russes, des contractuels de la société russe de sécurité Wagner, des mercenaires si l'on veut, qui ne sont pas officiellement des soldats russes, mais qui y ressemblent quand même beaucoup. Ils seraient en tout environ 2500 en Syrie et seraient chargés par le régime de la reprise et de la sécurisation des installations pétrolières et gazières. Et c'est une opération pour reprendre l'un de ces objectifs qui a tourné au massacre dans la nuit du 7 au 8 février. L'objectif visé était tenu par les forces démocratiques syriennes, essentiellement kurdes, épaulées par des forces spéciales américaines. Directement attaquées, ces dernières ont appelé à la rescousse l'aviation de la coalition, chasseurs-bombardiers et hélicoptères d'attaque qui ont véritablement taillé en pièces les assaillants russes.
Voilà pour les faits. Alors certains observateurs considèrent, Eric, qu'il s'agit des plus graves affrontements indirects entre la Russie et les États-Unis depuis la fin de la guerre froide.
Sans conteste, en effet. Mais les Américains affirment, et les Russes n'en disconviennent pas, que les deux parties étaient constamment en contact avant, pendant et après l'événement, la coalition ayant prévenu les officiers de liaison russes que l'aviation occidentale s'apprêtait à lancer sa contre-offensive. L'état-major russe avait d'ailleurs affirmé, au lendemain de l'événement, que l'offensive des troupes pro-régime n'avait pas été lancée en coordination avec lui. N'empêche que ce sont bien des citoyens russes qui ont fait les frais de l'affrontement. 5 morts, reconnaît le Kremlin, au moins 15 morts, si l'on en croit les enquêtes menées en Russie par les médias locaux. Près d'une 100, selon des médecins militaires russes interrogés hier par l'agence Reuters à Moscou et Saint-Pétersbourg, et qui ont traité les très très nombreux blessés rapatriés en Russie ces derniers jours.
Merci Éric Biegala. Les Américains aux prises avec les Russes sur le terrain syrien, avec les Turcs également, depuis l'offensive d'Ankara au nord de la Syrie contre les Kurdes d'Afrin, considérés par Washington comme un maillon fort de la lutte contre le groupe État islamique. Hier, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson était arrivé en Turquie pour une visite de 2 jours. Il a déjà rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les précisions de notre correspondante Anne Andlauer.
En atterrissant à Ankara, Rex Tillerson se savait attendu de pied ferme par ses hôtes turcs avec lesquels les relations n'ont cessé de se dégrader au cours de l'année écoulée. L'opération de l'armée turque dans la région syrienne d'Afrin, contrôlée par une milice kurde traitée en partenaire par Washington, mais en terroriste par Ankara, n'est que le dernier épisode d'une succession de crises entre les deux alliés de l'OTAN. Ce lourd contentieux explique sans doute la durée hautement inhabituelle de la rencontre entre le chef de la diplomatie américaine et le président turc Recep Tayyip Erdogan. 3 h 15 min, pendant lesquelles, selon des sources turques, le chef d'État a transmis de façon claire les attentes de son pays sur la Syrie, l'Irak, sans oublier le cas du prédicateur Fethullah Gulen, accusé d'avoir fomenté un coup d'État en 2016 depuis son exil en Pennsylvanie et dont les autorités turques réclament en vain l'extradition. Vis-à-vis des combattants kurdes qu'Ankara affronte en Syrie, les YPG, les attentes turques sont de 2 ordres. que les États-Unis cessent de les armer dans le cadre de leur lutte contre le groupe État islamique et que les militaires américains se retirent de Manbij, une autre enclave kurde du nord de la Syrie que le président Erdogan menace d'attaquer après sa campagne d'Afrin. Sur ces deux points, Ankara a reçu une fin de non-recevoir, Washington estimant au contraire que l'offensive turque nuit aux efforts de la coalition anti-djihadiste.
Les maladies mentales plutôt que les armes à feu. Donald Trump a choisi son adversaire hier soir dans sa courte allocution à la télévision en réaction à la tuerie d'avant-hier qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride. Le président américain a appelé les citoyens américains à répondre à la haine par l'amour, à la cruauté par la gentillesse. À aucun moment il n'a évoqué le port d'armes aux États-Unis. Renouer le contact, retrouver une coopération dynamique, c'est avec ces objectifs que le premier ministre polonais se rend à Berlin aujourd'hui. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis l'avènement des conservateurs nationalistes à Varsovie en 2015. Au menu de ces discussions avec Angela Merkel notamment, la situation de l'état de droit en Pologne. Et justement, vous revenez de Pologne, Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Clara.
Vous y avez tourné un magazine de la rédaction pour France Culture, rencontrant des électeurs du PiS, le parti droit et justice au pouvoir, d'idéologie conservatrice et eurosceptique. Il plébiscite le bon changement. C'est le slogan d'ailleurs du parti de Jaroslaw Kaczynski, si décrié à Bruxelles. L'Union a ouvert une procédure inédite pour risque d'atteinte à l'état de droit. Marie-Pierre, vous avez voulu comprendre pourquoi ce parti en Pologne est si populaire.
Et oui, nous avons donc choisi d'aller dans la Pologne rurale, là où le parti droit et justice fait ses meilleurs scores, notamment à Chydułowiec au sud de Varsovie et à Rzeszów dans les Basses-Carpates dans le sud-est du pays. Une plongée au cœur de l'électorat du pays. Et ce sont des Polonais de la classe moyenne qui nous parlent. Non des extrémistes nationalistes, mais des entrepreneurs, des commerçants. Ils se définissent comme de simples gens. Ils ont voté PiS pour la première fois il y a 2 ans et demi et ils s'en félicitent aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui les séduit ?
Bien, il y a d'abord la politique sociale. Le programme dit 500+, 500 zloty versés par enfant à partir du deuxième enfant. C'est environ 125 euros, une somme conséquente en Pologne, qui a permis par exemple à certains de partir en vacances pour la première fois ou d'offrir un ordinateur à leurs enfants. Dariusz et Justyna Jakubczyk, vous les entendrez, nous disent qu'ils espèrent ainsi que leurs enfants n'auront pas, comme eux, à s'expatrier à l'Ouest pour travailler. La famille est bien au cœur de la politique du PiS et cela porte dans une Pologne où l'Église reste puissante.
Et c'est donc cela, Marie-Pierre, le bon changement.
C'est un slogan assez flou pour que chacun y mette ce qu'il désire. Le social, avec ses allocations familiales, la construction de logements sociaux, l'abaissement de l'âge légal de la retraite, cela compte. Alors que la thérapie de choc ultralibérale après le communisme dans la course à l'adhésion à l'Union européenne avait creusé les inégalités. Mais il n'y a pas que cela. Le bon changement, on nous le dit, sur les marchés, dans les cafés, c'est le fait que le parti tienne ses promesses. À son crédit encore la décommunisation et surtout un discours sur la fierté retrouvée de la Pologne. Une Pologne qui défend son identité, s'affirme en Europe, se veut souveraine et se battra pour le rester. Des mots qui portent dans un pays fier de sa croissance économique, de son niveau d'éducation, qui ne veut plus être considéré comme un état de seconde zone dans l'Union. Le PiS a compris qu'il y avait là une attente des Polonais, que son discours mal perçu dans l'Union est venu combler.
Merci Marie-Pierre Véraud. Votre reportage intitulé « En Pologne, les électeurs du PiS plébiscitent le bon changement ». Ce reportage est diffusé à partir de 17h ce soir sur France Culture. Vous l'avez réalisé avec Annie Brault et il sera suivi d'un débat animé par Aurélie Kiefer.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les négociations autour de l'assurance chômage calent.
Pour la première fois, les syndicats à l'unanimité en appellent au gouvernement pour sortir de l'ornière. L'exécutif doit intervenir selon eux pour aboutir à un accord sur la future réforme de l'assurance chômage. Hier soir, ce qui devait être la dernière réunion sur le sujet a duré plus de 5 heures. Rien n'en est sorti, si ce n'est un désaccord criant entre syndicats et patronat. Nous l'évoquions hier, la question des contrats courts les divise. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Clara.
Le dialogue social est-il en panne, Annabelle ?
En panne ? Ce matin, le mot paraît un peu faible. Il est certain que le menu de ces négociations sur l'assurance chômage était chargé. L'ouverture de l'indemnisation aux démissionnaires, l'extension aux indépendants avec toutes les inconnues qui les accompagnent sont tout de même de véritables casse-têtes qui auraient été difficiles à résoudre. Mais ce n'est pas sur ces chantiers-là que le dialogue social s'est crispé et même rompu ce matin, on peut le dire. C'est sur une question que les partenaires sociaux connaissent déjà bien depuis plusieurs conventions unédiques, la question de la précarité et de l'abus des contrats courts. D'ailleurs, 5 heures de négociation pour une séance conclusive, c'est peu, croyez-moi. croyez-moi, pour la dernière convention UNEDIC il y a 2 ans, qui d'ailleurs n'avait pas abouti à un accord, les négociations avaient duré jusqu'au bout de la nuit. Et là, à 21h, elles se sont arrêtées, ce qui prouve bien que les partenaires sociaux ont atteint leurs limites. Depuis le début, le patronat refuse toute sanction financière pour lutter contre l'abus des CDD courts. Il est resté arc-bouté sur ce point. Les syndicats ont botté en touche et ils demandent maintenant au gouvernement d'intervenir sur la question, ou du moins de clarifier la situation. Le gouvernement avait menacé les partenaires sociaux de mettre en place un système de bonus-malus s'ils n'arrivaient pas à un accord. Qu'ils l'affirment, sa position, qu'ils l'écrivent même, demandent les syndicats, avant la dernière réunion qu'ils se sont accordés avec le patronat jeudi prochain. Emmanuel Macron souhaitait que l'État reprenne la main sur la gestion de la caisse d'assurance chômage. Il semble que tout ait été fait pour lui faciliter la tâche.
Annabelle Grelier, lui, est loin de ses préoccupations autour du chômage et des indemnisations. Pour preuve, il accepterait même de baisser son salaire à la demande du gouvernement. Carlos Ghosn, patron du groupe automobile Renault, une baisse d'environ 30% annoncée hier soir par Bercy. C'est assez pour avoir la confiance de l'exécutif et pour repartir pour un nouveau mandat de 4 ans. Feu vert donc du ministre, du conseil d'administration hier soir également. Cette concession sur son salaire dans le contexte est toutefois assez minime. La rémunération de Carlos Ghosn avoisinera les 5 millions d'euros rien que chez Renault, sans compter les primes l'année prochaine. Non, le plus important est de préparer l'avenir avec une gouvernance. Thierry Bolloré, jusque-là directeur délégué à la compétitivité chez Renault, a été nommé numéro 2 du groupe. Jean-Marc Chardon, bonjour.
Bonjour.
Carlos Ghosn a relancé, il a confirmé Renault dans son développement. L'État actionnaire voudrait donc que ça continue.
Et oui, c'est bien l'objectif, hein, mettre en état de performance le groupe, lui permettre de continuer sur sa lancée qui est impressionnante. Plus de 8,5% d'augmentation de ses ventes l'an dernier. C'est à ce moment qu'il est devenu numéro 1 mondial devant Toyota, devant Volkswagen. Avec l'alliance avec Nissan, ce sont plus de 10 millions de véhicules produits. En fait, un groupe qui rassemble une dizaine de marques en incluant Mitsubishi, Dacia, Lada et Alpine, Renault, Samsung Motors. Et ces succès, eh bien, ils se sont amplifiés depuis une demi-douzaine d'années. Ils sont attribués à Carlos Ghosn pour les choix stratégiques qu'il a imposés, quelles que soient les critiques. Un patron conforté de toutes parts, y compris par l'État. Oubliez les épisodes de tension, l'État toujours actionnaire mais minoritaire, qui a aussi manœuvré afin de renouveler le nouvel attelage à la tête du groupe. Un expert reconnu de l'industrie automobile en la personne de Bolloré, le Thierry Bolloré, numéro 2 du groupe, au profil très international, indispensable pour piloter le plan stratégique. Et puis, deux nouveaux administrateurs au profil très financier. En tout cas, de quoi assurer les conditions d'un développement qui passe de plus en plus par l'international. De s'y préparer, on l'a bien compris, la succession de Carlos Ghosn est assurée.
Merci Jean-Marc Chardon, chef du service économie de France Culture. Une attaque inédite contre le transport ferré public, dénonce la CGT. Une recherche de la rentabilité contre le service public, regrette de son côté l'UNSA ferroviaire. Le rapport Spinetta attise la colère des syndicats des cheminots. Dans ses 43 propositions, le texte préconise entre autres la fin de certaines petites lignes ferroviaires en France, celles où circulent seulement 5 trains par jour avec 200 passagers maximum. Question posée autour du statut des cheminots, le gouvernement va se pencher dessus. Chez nos confrères de France Info ce matin, Dominique Bussereau, ancien ministre des Transports, actuel président du conseil départemental de Charente-Maritime, se prononçait déjà contre la suppression pure et simple du statut de cheminot.
Mon père, ma mère, mon grand-père étaient cheminots. Donc voilà, je sais bien l'attachement des cheminots. Faut bien que l'opinion publique comprenne que les cheminots, embauchés au statut en tout cas, je ne parle pas des cadres dirigeants qui viennent de d'autres entreprises, sont plutôt mal payés. Et que le statut, c'est une espèce d'assurance qui dit vous avez un salaire qui est assez moyen par rapport aux entreprises du privé, mais vous avez une espèce de progression automatique tout au long de la carrière sans risque de perdre votre emploi. Ailleurs, la Poste, Orange, en Allemagne après la réunification des deux Allemagnes, on a fait le système à double entrée, c'est-à-dire que ceux qui sont au statut le restent, puisqu'ils ont été recrutés dans ce titre-là, et que ceux qui ne sont pas, enfin ceux qui arrivent maintenant, sont recrutés normalement. Mais il faut que la SNCF, à ce moment-là, leur assure de meilleures conditions salariales, parce que s'il n'y a plus la protection tutélaire du statut, il faudra que les nouveaux entrants aient des garanties d'un salaire correct, sinon d'ailleurs la SNCF ne pourra recruter personne.
Dominique Bussereau, la réforme doit être prête pour le mois d'avril dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Le gouvernement au chevet en ce moment des agriculteurs, mobilisés depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines contre la refonte européenne de la carte des zones défavorisées, ce qui va priver certains d'aides financières. Le porte-parole du gouvernement a donc promis un accompagnement financier de 2 ans pour ceux qui sortiront de la carte. Accompagnement à hauteur de 80% des aides pour la première année, 20% pour la deuxième. Ce texte-là sera présenté mercredi prochain, le projet de loi Asile et Immigration. Dans ce même mouvement, le Parlement a définitivement adopté hier une loi qui va faciliter le placement en rétention des demandeurs d'asile dublinés. Dublinés, du nom de ce règlement européen qui confie le traitement d'une demande d'asile au premier pays où la personne a été enregistrée. Et certains de ces migrants ne sont pas pris en charge, ils dorment comme ils le peuvent dehors. 28 associations ont déposé un recours devant le Conseil d'État contre la circulaire Collomb qui veut organiser le recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Décision attendue aujourd'hui. Et puis plus généralement, combien sont-ils dehors ? En dehors des centres d'hébergement. À Paris cette nuit, la mairie organisait une nuit de la solidarité. 1700 bénévoles accompagnés de travailleurs sociaux ont sillonné les rues de la capitale pour rencontrer et puis pour compter les sans-abri. Des chiffres examinés ensuite par un comité scientifique pour permettre de mieux adapter le dispositif d'aide aux sans-abri. La mairie de Paris promet un retour d'ici plusieurs semaines. La météo à présent de ce vendredi qui commence. Une perturbation pluvieuse va traverser ce matin le pays sur une large bande allant de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. Partout ailleurs, le soleil se fera une belle place. Les températures plutôt douces ce matin, comptez 4 degrés à Lille et Brest, 5 à Besançon et Paris, 8 degrés à Paris. À Lyon, 8 degrés, 11 degrés à Bordeaux et 12 à Marseille.
Merci Clara Lecoq-Réal.